un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002. Aujourd'hui, nous retrouvons Sœur Madeleine Guillebeau pour la seconde et dernière partie de son intervention, Saint-André Hubert Fournet, fondateur des Filles de la Croix.
Constitution et règlement des pauvres Filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André, établie à Maillé, diocèse de Poitiers, au pied du Sacré-Cœur de Jésus, ouvert par la lance pour notre amour, pour adorer par lui et avec lui la très sainte Trinité. Vous voyez que le bon Père, dès les premières lignes de nos constitutions, le cœur de Jésus pour la Sainte Trinité. On pourrait s'arrêter, rester dans l'amour du cœur de Jésus. Mais là, pour adorer par lui et avec lui la très Sainte Trinité. Ça, on ne peut pas nous l'enlever de nos premières lignes du bon Père et de son testament spirituel encore. Alors, quelques traits tout de même marquants de ce qu'il a écrit là, dans cette église Saint-Fel, donc, qui est en face de chez nous maintenant. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde et par conséquent la nôtre, c'est cette divine lumière que nous devons consulter et suivre dans le choix d'un état. Qu'a fait notre Seigneur ? Alors bon, c'est la spiritualité de l'école française. Hein. Entrer dans les intentions et les sentiments du cœur de Jésus. Qu'a fait le Seigneur dès son entrée dans le monde? Qu'a fait le Seigneur pendant sa vie mortelle? On retrouve ça aussi dans son bréviaire. Voilà. Que fait le bon pasteur dans le sacrement de son amour? Pour entrer dans les dispositions de ce divin cœur, cette association a pour but de représenter la vie de notre Seigneur et la simplicité de son évangile par son esprit, ses mœurs, ses œuvres. Alors, représenter la vie de notre Seigneur et la simplicité de son évangile. Alors, cette phrase-là, hein, la bonne sœur la reprendra pour certaines notes. La vie de notre Seigneur et la simplicité de l'évangile. Pourquoi vous savez, nos livres verts, là, c'est dans la simplicité de l'évangile. C'est un peu typique de nous, ça. Cette simplicité de l'évangile. Les œuvres, l'instruction des pauvres de la campagne. Dans l'ordre du salut, bien sûr, apprendre gratuitement aux enfants à lire, écrire, compter, travailler, et mettant toujours le catéchisme bien expliqué au premier rang. Elle visite les pauvres malades pour les instruire. Alors, le mot instruire à ce moment-là, c'est parler de Dieu. Hein? Leur dire ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire leur dire qu'ils sont enfants de Dieu. Leur dire qu'il y a Dieu. L'instruction, c'est l'instruction religieuse. Après. Et pour arriver à cette instruction religieuse, elles apprennent aux enfants à lire, à écrire et à compter et à travailler. Tout ensemble, pour en faire des enfants de Dieu. Elles visitent les pauvres malades pour les instruire, je viens de le dire. Elles portent le nom de Filles de la Croix, première constitution, consacrée au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, le centre. Le modèle, le tout des Filles de la Croix, c'est le divin cœur de Jésus crucifié. Alors là, j'ai relevé quelques traits spécifiques hein, de la simplicité. Bon, je n'ai pas dit ce mot encore, mais de la simplicité voulue par nous, pour nous, par le bon Père. Des choses spécifiques par rapport à d'autres, enfin bon, qui sont vraiment de nous. Il n'y a aucune distinction entre les sœurs. Chacune est employée selon ses talents et ses lumières. Ça nous semble évident. Ça ne l'est pas forcément à l'époque. Elles ne se qualifient jamais entre elles que du nom de sœur. La supérieure elle-même n'a pas d'autre dénomination. Et on reçoit en qualité de novice des sujets de toutes les classes sociales. Pas de classe parmi les sœurs. Or, à cette époque, même des congrégations fondées à cette époque, donc là, nous sommes en 1811 maintenant, hein, quand le bon père est obligé d'écrire les constitutions, nous sommes en 1811. Je ne vous ai pas suivi les dates, mais c'est comme ça. La sœur Elisabeth a écrit en 1809, là. Hein, puis après, à Chavannes. Bon, les voyages, les refus, tout ça. C'est en 1811 qu'il présente les constitutions. Eh bien, même à cette époque-là, des congrégations fondées à cette époque-là avaient différentes classes de sœurs à l'intérieur des communautés. Mais nous, dès le départ, avec une Marianne et une Élisabeth. Une remarque intéressante par rapport à la situation de l'Église à ce moment-là. Lorsqu'elles sont dans les paroisses où il n'y a pas de prêtre, elles se contentent d'assister à la messe le dimanche, où elles peuvent, bien sûr. Pour le reste, elles se conforment autant que possible à leur règlement. Une petite chose, mais importante, à cette époque, toutes les prières se font en français, puisque les sœurs sont obligées de vivre parmi les pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elles prient dans leur chapelle particulière, qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'elles prient en latin, en français ou en grec? Ça ne fait rien. Ça veut dire que les sœurs priaient leur prière à l'église, dans l'église paroissiale, et elles le priaient en français, parce que les gens pouvaient les entendre prier et venir prier, écouter la prière. Et il faut que ce soit en français qu'ils comprennent la prière. À ce moment-là, ils n'avaient pas leur chapelle particulière. C'était l'église paroissiale. Tous les exercices extérieurs, dans les cas de nécessité, oui, ça c'est, ou par charité, pourront subir des changements, faisant tout céder aux besoins du prochain pour le porter à Dieu, qu'il faut servir avec une grande liberté, consultant plus l'esprit que la lettre du règlement. Ça, je crois qu'on l'a gardé encore sous une forme ou une autre, dans les marches de nos constitutions. Bon, à ce moment-là, comme je vous dis, l'adoration eucharistique est assurée tout au long de la journée par une sœur dans la petite chapelle de Molande. Et de Rochefort au départ. Et dans la chapelle de Rochefort au départ, bien sûr. Mais, vous connaissez la suite, les constitutions arrivent en octobre 1811 à l'évêché de Poitiers. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'évêque. On nous l'a dit là aussi depuis deux jours. Il n'y a pas d'évêque. Et on est au plus fort de la lutte entre Napoléon et le pape. Les affaires religieuses, ce n'est pas la peine de trop en casser les oreilles des préfets, du préfet de Poitiers, pas plus que les autres. Et alors, bien sûr, le bon père présente à l'évêché les constitutions. Mais les constitutions ne pourraient être approuvées par l'évêché qu'à condition de l'être par la préfecture. Or, l'abbé de Moussac n'a pas envie d'aller ennuyer le préfet avec une autre demande pour une congrégation alors que leurs relations ne sont pas extrêmement bonnes. Alors, on s'arrange, et puis en plus, peut-être que l'abbé de Moussac n'est pas tellement content non plus de cette règle qui est tout de même assez dure. Et en particulier, ce qu'il va faire supprimer, c'est cette adoration eucharistique le long de la journée. Élisabeth n'a pas su choisir, et le bon père, je pense qu'il laisse à Élisabeth une tellement grande place, et c'est bien, parce que c'est elle qui aura à le vivre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fondateurs, justement, qui ont été aussi respectueux de ce que les sœurs, finalement, des femmes, auront à vivre. C'est tout de même Élisabeth et ses sœurs qui auront à le vivre. Et lui a été très, très respectueux de tout ce qui était de la vie concrète des sœurs. Mais c'est qu'Élisabeth mettait la barre haute. Alors, cette adoration, depuis 4 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, il allait falloir choisir où on était des contemplatives. Et comme faisaient les sœurs de Picpus, d'accord, elles vivaient en ville. Elle ne courait pas les campagnes et les fermes et soignait les malades et tout ça comme faisaient les sœurs de Molenthe ou de Rochefort. Elle, bien sûr, elle faisait de l'accueil de personnes. Elles étaient ouvertes, si vous voulez, dans une partie de leur maison. Mais elles n'avaient pas la vie dure des filles de la Croix, de Molenthe et de Rochefort. Et elles avaient l'adoration. Alors, il allait falloir choisir. Et le conseiller épiscopal a été très net. Pas d'adoration pendant la journée. Oui, une heure d'adoration normale, d'adoration, quoi. Mais une heure, même une demi-heure, je crois, c'était. Une demi-heure d'adoration, une demi-heure de méditation. Bon. Mais pas l'adoration perpétuelle pendant tout le jour, comme faisaient nos premières sœurs. Ça, le conseil épiscopal a été bien net. Oh, Élisabeth a toujours été très obéissante, à son oncle en particulier. Sauf, entre les deux, entre le père Fournet et son oncle, au moment enfin, qu'on a vu tout à l'heure, là, hein, et quand le père lui a dit de revenir à Béthine. De laisser Poitiers, de revenir, hâtez-vous de venir ici. Là. Bon, l'abbé de Moussac n'avait rien à dire. L'abbé de Moussac n'avait rien à dire. C'était son directeur spirituel. Mais là, pour cette chose-là, bien sûr. Je pense que c'était mieux. Et bien, c'est bien comme ça, puisque c'est comme ça. Alors, la note du conseil épiscopal est celle-ci pour le 4 octobre 1811. Voilà ce qu'on trouve sur le registre. Le conseil épiscopal donc, ne saurait avoir l'air d'approuver la maison religieuse établie dans la paroisse de Saint-Pierre de Maillé. Elle ferait bien de prendre une règle déjà autorisée. La règle de cette maison est trop austère. Le gouvernement s'occupe en ce moment de faire des recherches sur les maisons religieuses. Il serait très imprudent d'autoriser cette maison avant qu'elle ait pris l'esprit qu'on pût approuver. Voilà. Alors le bon père a reçu ça, bonne sœur aussi. Donc le conseil demande que l'on supprime l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement pendant la journée, pendant toute la journée. Enfin, on a une adoration, mais chacune une heure, comme ça. On n'est pas en permanence devant le Saint-Sacrement. Et les pénitences qui ne sont pas compatibles avec la vie apostolique. Et la règle dira, les sœurs y suppléent par l'obéissance, suppléer à la pénitence par l'obéissance. Et pour Élisabeth, je pense que c'était aussi dur d'obéir que de faire ces pénitences dont elle avait un peu rêvé. Et ce ne serait, mais on a toute autorisation de continuer, hein, et de recevoir des novices, ce qui est important quand même, très important. Et ce ne sera que le 30 octobre 1816. Que l'institut sera approuvé par l'évêché, par le conseil épiscopal, et sous l'autorité de l'ordinaire, il n'y en a pas, mais enfin c'est l'abbé de Moussac qui est le conseil, nous nommons Fournet, curé de Maillé, supérieur de la dite congrégation, et nous nommons la sœur Bichier, supérieure. Mais c'est qu'on est en 1816, la situation politique a bien changé, et la restauration, maintenant, le retour des rois, Louis XVIII, laisse, et non seulement laisse, mais donne à pleine main à la place qui est vacante à toutes les congrégations religieuses qui vont s'y engouffrer, la place dans le domaine de l'enseignement et des œuvres sociales. Au contraire, les religieuses au travail. Là, non seulement on les autorise, mais on les encourage. Donc ça va être tout à fait différent. Voilà. Alors la congrégation est fondée. Petit mot, parce que ça touche tellement le bon père. La maison de Rochefort, on habite à Rochefort, hein, on est à Rochefort depuis 1811. La maison de Rochefort est trop petite. Les sœurs sont maintenant établies aussi dans la région parisienne. Vous savez pourquoi, l'opération de la bonne sœur Élisabeth. On est parti là-bas. La congrégation, bon. Et en ce moment, enfin, à cette époque-là, 1816, 1817, 1818, la congrégation, c'est Paris, Orléans, toute une descente, Paris-Orléans, et puis toute une descente avec un petit peu dans l'Indre, côté de Bourges, par là, et puis jusque dans ce qui serait les Charentes. Là, on n'est pas plus au sud. Bédarieux. Ah, Bédarieux. Oui, aussi. Mais spécial, Bédarieux. C'est pour dire, on est une ligne, là. Et la bonne sœur est souvent en déplacement, évidemment. On est une petite congrégation diocésaine. On dépend de l'évêque de Poitiers. La maison de Maillé est trop petite et il faut essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus grand. Alors, les recherches et tout ça, et on trouve le monastère de Fontevrist de l'Appuy que... Alors, c'est ça aussi qui est important. Il faudra un jour qu'on étudie de plus près, que nous, tout ensemble, les relations, la place de Sainte-Jeanne-Élisabeth et la place du Mont-Père. Finalement, elle est autant fondatrice que lui, mais pour tout ce qui est matériel, installation vraiment de la congrégation sur le plan administratif et tout ça, c'est elle qui a en main les choses. Hein. En tout cas, pour l'achat de l'Appuy, c'est bien net. Elle va lutter pendant des années pour arracher petit à petit aux propriétaires du prieuré Fontevrist là, de l'Appuy. Je dis là parce qu'il ne faut pas croire que cette pièce où nous sommes en faisait partie. Hein, ce sont les deux bâtiments qui sont de chaque côté des cloîtres et la maison du bon père et des bâtiments par ici, là, dans le bas. Il en reste encore, ces bâtiments Fontevrist, mais pas ce qui est autour de la cour mater, pas les deux. Et aussi ce qui est actuellement ce qui était l'aumônerie. Où sont les supérieurs maintenant, mais même pas tout. L'ancien standard, ça faisait partie aussi des anciens bâtiments qu'elle a achetés. Bon, elle a mis presque 10 ans pour acheter tout, mais les sœurs sont venues habiter là en 1820. Alors, si on regarde du côté du Mont-Père, vous vous rendez compte qu'il était curé à Maillé depuis... Alors nous, évidemment, on le vit comme ça, hein, mais ça faisait 40 ans presque qu'il était curé de Saint-Pierre de Maillé. Donc bien, bien connu de tout le monde, et puis non seulement curé de Saint-Pierre de Maillé depuis 40 ans, mais il y était né. Il arrivait bientôt à 70 ans. Ça faisait 70 ans qu'il était connu à Maillé. Il allait falloir quitter tout ça et puis venir avec sa santé un peu délabrée maintenant, habiter là avec les sœurs. Moi, je trouve que le gros changement de sa vie, ça a peut-être été la Révolution et tout ça, mais il était plus jeune. C'est ce moment-là. Hein. Et quitter sa paroisse. Parce qu'on a beau dire qu'il était supérieur de la congrégation depuis sa fondation, 1807, 1811, tout ça... Mais il était parmi ses paroissiens et il assurait, pas seul, il avait son vicaire, l'abbé Guillon, c'est celui d'avant la Révolution. Il avait un vicaire, puis ensuite le père Forger qui sera son vicaire et qu'il remplacera ensuite comme curé. Mais enfin, il était là sur place et les gens qu'il voyait quand il ouvrait ses volets, c'était les gens du village. Les sœurs habitaient en bas, tandis que maintenant, il allait venir habiter là. Chez les sœurs. Vous savez qu'il a, à ce moment-là, il a fait don de tout ce qu'il possédait à la congrégation, à la sœur Élisabeth. À la sœur Élisabeth, pas à la congrégation, qui n'était pas reconnue comme entité civile encore. Donc, c'est la sœur Élisabeth qui... Ben, c'était comme ça. Ça a été comme ça jusqu'en 1825, je crois, quand la congrégation a été reconnue comme entité légale. On était reconnus par l'Église, mais pas encore par... C'est pour dire que le bon père, ça a été pour lui. Moi, il me semble, quand je le vois là, qu'il vient s'installer à l'Appuy, vraiment, vraiment un gros changement. Hein. Quitter Maillé, finalement, il n'avait jamais quitté Maillé. Si, bien sûr, Paris, ici les Moulineaux, puis ses histoires, et puis le sarcose. Mais il y reviendrait après, tandis que là, ça y est, il était parti. Pour les sœurs. Alors là, maintenant, il est pour la congrégation. Mais vous savez que sa maison, vous la voyez. Bon, alors, enlevez Saint-André, ce qu'on appelle Saint-André, là. Enlevez tout ça. Eh bien, ça donne sur une petite place. Et vous voyez, le chevet de l'église, c'était pas le chevet de la chapelle, il était arrondi et un peu plus petit. Elle était plus petite. Donc ça faisait une vraie petite place, là, une place. Pas une place, les gens y viennent. Alors, bon, il avait une petite communication là avec les gens et surtout les pauvres qui venaient frapper à sa porte. C'était plus l'escalier du presbytère, c'était là. On avait retrouvé le chemin. C'était là qu'on venait. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire du bon père ? Quelques passages de lettres qu'il écrivait aux sœurs quand il était là ? Ça fait partie du bon père fondateur, ça ? Comment il vivait ici ? Comment ? Comment il vivait ici ? Bon, il vivait... Il assistait aux délibérations du conseil, de la congrégation, là, où on nomme les... où on décide de l'admission des novices, où on décide des nouvelles fondations, on décide des obédiences à donner. Il y était présent tant qu'il pouvait. Il écrivait beaucoup, on nous l'a dit aussi aujourd'hui. Il écrivait beaucoup, même s'il peine à écrire à cause du mal aux yeux. Il dit quelquefois, j'ai oublié votre visage, mais mon cœur ne vous oublie pas. Quelque chose comme ça. Bien sûr qu'il vieillit et qu'il a du mal peut-être à suivre toutes les sœurs qui sont maintenant plusieurs centaines. Hein, il les a vues toutes arriver, mais même c'est beaucoup. Et bah, quoi dire ? Que sa référence perpétuelle, à la fois dans ses lettres, dans ce qu'il dit aussi, à la messe, où il prêche relativement souvent, vous savez que la seule église, le seul lieu de culte, c'est à l'endroit où est la chapelle actuellement, l'ancienne chapelle des Fontevrisses, qu'on appelait église des Fontevrisses, et qui a servi à la fois à la paroisse et à la communauté jusqu'en 1865, je crois. Donc à ce moment-là, il n'y avait que ce lieu de culte. Donc il y célébrait plusieurs fois la messe, quelquefois deux fois la messe à certains jours, et pour les sœurs. Et puis il y avait aussi la messe des gens du village. Souvent, il prêchait au moment des messes, et sa référence était toujours Jésus-Christ. Et Jésus-Christ de la crèche, de la croix, de l'autel, pour moi, enfin, moi, il me semble, ça revient tellement souvent, le mystère de Jésus. Pauvre, la croix et puis Jésus Eucharistie, ça c'est sûr. Je crois que accroché autour de ces trois mots, Jésus de la crèche, de la croix et de l'autel, mais il nous laisse jamais là pour la gloire de la Trinité. Je trouve que c'est bon. Enfin, vous savez tout ça aussi bien et mieux que moi, et c'est des choses qui nous habitent, quoi. Le bon père, c'est ça. Vous savez que dans, ben c'est pas cette salle, mais dans la salle Saint-Ignace, là aussi, vous la voyez cette salle Saint-Ignace, pas comme maintenant, mais comme elle était à ce moment-là, c'est-à-dire des bancs sans dossier, là, devant la chaire, devant, qui était la même, qui est encore, hein. Alors, des bancs sans dossier, les sœurs cousaient, là, pendant les instructions, et vous savez qu'il leur disait quelquefois, mais laissez donc ces broderies, écoutez-moi, laissez ces broderies, notre Seigneur n'en a pas besoin. Parce que la sœur Élisabeth voulait que ce soit archi bien, les linges d'autel et tout. Et c'est normal, mais c'est normal. Mais qu'on écoute bien la parole de Dieu et que Jésus n'ait pas besoin de tant de broderies, c'est vrai aussi. Mais j'aime bien ça entre deux, parce que les deux sont vrais et que c'est ça qu'il faut marcher sur deux pieds. Les heures et les heures passées au confessionnal, où il était très bon. Et pourquoi ? Parce qu'il, bon, pour lui, parce qu'il portait en lui le comment dire, la béatitude de la miséricorde. Il parlait de lui comme d'un grand pécheur, et il savait que Dieu pardonne. Et il accueillait son accueil de celui qui se reconnaissait pécheur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ces petites sœurs, elles n'avaient peut-être pas de gros péchés. Alors, il y en a qui avaient un petit peu peur, quelquefois. Mais tout le monde dit qu'au confessionnal, il était très bon. Exigeant, mais très bon. Bon, les retraites. Alors, les retraites, pour lui, c'est très important. Les sœurs passent ici une fois dans l'année. Après, il écrira peut-être, mais les sœurs passent ici une fois dans l'année. Alors, c'est très très important. Il y consacre. Le temps des retraites, il y est nuit et jour, pour ainsi dire. Des heures avant le jour, le matin, l'été, alors avant le jour, l'été, vous vous rendez compte ce que ça donne. Il est au confessionnal, pour les sœurs, et puis les instructions. Et en même temps, ce que je remarque, c'est son souci de ce qu'on appellerait maintenant le principe de subsidiarité, si vous voulez. Sœur Marie Perpétue, ça vous dit quelque chose? Elle est là-bas, au Pays Basque. Un peu, ça se comprend un peu, comment on dit? Pas scrupuleuse, mais inquiète quand même, parce qu'elle est loin, qu'elle n'a pas tellement de conseils ou qu'elle n'ose pas trop. Alors il lui écrit, « Éloignée, moi, je suis éloignée de vous, je crois cependant que vous devez vous défier un peu moins de vous-même et vous déterminer tout de suite quand c'est nécessaire. C'est à vous qui êtes sur les lieux d'examiner les besoins de votre maison. » Parce qu'elle attendait des conseils et tout ça, il lui dit, « Mais vous voyez vous-même ?» Je trouve que c'est, hein, avec tout ce qu'on dit, pour l'époque, et encore, confiance aussi aux autres, je m'en rapporte à vos charitables hommes de Dieu pour la retraite, les prêtres de là-bas qu'ils ne connaissent pas, mais je m'en rapporte à eux. Le Saint-Esprit qui leur a donné le zèle pour vous conduire daignera leur donner aussi les grâces nécessaires. La paix en toutes circonstances, dans des lettres aux sœurs. Je dois vous dire que vous ôteriez de la gloire à Dieu si vous étiez inquiète et troublée. On dirait, mais quel est le Dieu de cette religieuse? Elle se dévoue, elle s'immole à son service, et encore, elle craint qu'il ne la perde? Et vivez donc tous les jours de manière à pouvoir communier tous les jours. La confiance plaît plus à notre Seigneur en vous voyant vous approcher que la crainte et la défiance en vous voyant vous éloigner. Et dans les situations concrètes, qui sont celles que nous vivons, Dieu saura bien vous combler de grâce autrement que par des confessions ou des communions que vous ne pouvez pas faire, parce qu'il n'y avait pas de prêtre et que ne pouvait pas... Bon. Laissez donc le reste. Travaillez plutôt à faire régner notre Seigneur dans votre cœur et dans le cœur de vos petits élèves, et qu'il règne entre vos sœurs et vous une parfaite union. » La sœur pleurait parce qu'elle ne pouvait pas se confesser et communier. Il lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Et on est du temps du bon père, il y a 100 et quelques années. Et c'est clair comme tout. Et la vie communautaire importante. Ne perdez jamais de vue cette maxime de notre Seigneur. Apprenez de moi que je suis doux. Nous avons des fautes à pleurer et non pas des reproches à nous faire. Et cette phrase qui est sur quelques-uns de nos petits. Faites bien attention à votre nom de sœur, qui suffit à lui tout seul, pour qu'il n'y ait jamais la moindre petite désunion entre vous. Alors vous savez qu'il sent qu'il vieillit, donc que la congrégation est lourde à porter. Ah oui, puis il y a aussi autre chose, à propos des changements. Alors, changement de communauté. Oui. Changement de communauté et sérieux dans le devoir d'État. Il n'y a sans doute pas assez d'ouvrages pour exercer votre zèle, une sœur qui change, que l'on va changer. Ce changement vous rappellera que vous êtes une étrangère sur la terre, en voyage, pour aller vers l'éternité. En sortant de votre paroisse, vous ne sortez pas de la Sainte Trinité. Glorifiez Dieu partout, puisque vous l'emmenez avec elle, avec vous, partout. Et à une autre, peut-être un peu, je ne sais pas, ce ne sont pas des prières que Dieu vous demande, mais le soin de la maison pour vos sœurs, et vous péchez en priant si votre ménage en souffre. Alors, vous savez que par rapport à la congrégation, ce qui le peine, quand il arrive, bon, il est là à l'appui, mais il sent que les sœurs sont partout en France, bon, elles sont plusieurs centaines, hein. Elles sont plusieurs centaines, et ce qui lui fait de la peine, c'est qu'il ne peut pas suivre aussi bien qu'il voudrait, et sa santé. Il sent qu'il faudrait quelqu'un d'autre. Hein. Alors il demande à l'évêque, Monseigneur de Bouillé, qui fait la sourde oreille pendant quelque temps. Et enfin, bon, il pense au curé de Chauvigny, au père Thory, vous savez. Et il écrit à ce curé de Chauvigny, « Je ne désire que deux choses, mourir dans l'amour de Dieu et vous voir mon successeur. Je crains d'avoir fini par importuner mon Seigneur en lui écrivant trop souvent à cet égard. » Oui, ça le tenaille, c'est vrai, hein, on sent qu'il est inquiet pour l'avenir de la congrégation. Il sent qu'il ne peut plus. Ça montre qu'il a justement un grand bon sens encore, beaucoup d'humilité et un grand bon sens. Sentir qu'on n'est pas capable. Or, il l'est encore d'une certaine façon. Hein. La supérieure Élisabeth est allée à l'évêché pour vous demander à sa grandeur, parce que nous vous désirons tous. Et, bon, bien sûr, cette lettre n'est pas datée. Mais une autre l'est, c'est le 7 novembre 1832, où il écrit au père Toury, « Je vous dis pas tout. Puisque mes vieux ans ne me permettent pas d'aller par ce mauvais temps vous communiquer la réponse de Monseigneur l'évêque à la demande que je lui ai faite, je vais vous en faire part par écrit. » Être supérieur de la congrégation, enfin, cette carrière surpasse mes forces. Cette congrégation est l'œuvre de Dieu. Bien organisée et administrée, elle procurera sa gloire. Moi, j'aime ce futur. Parce que lui, il est en train de ramer le pauvre bon père. Hein? Il sent que c'est au-dessus de ses forces, mais il se dit, si quelqu'un d'autre vient, elle procurera sa gloire. Enfin, moi, je crois qu'il y a plein d'humilité là-dedans. Ne refusez pas la faveur d'accepter. C'est le partage des apôtres que je vous offre. C'est la croix. Ce qu'a dit Jean, le père Husset hier. La croix. Vous savez, cette grande lumière qui, lui, dans les ténèbres, conduit au ciel, ne la refusez pas. Vous voyez que ce n'est pas beau comme lettre d'un prêtre à un autre à qui il va passer tout ce qu'il a de plus cher et qu'il veut sauver, quoi, pour Dieu. Dites, enfin, acceptez. Ne me dites, pour l'amour de Dieu, ne me dites pas non. Alors le père Toury prendra ses fonctions, vous savez, non pas de supérieur, comme il lui demande, mais de coadjuteur du bon père. Bon, alors il y a quelque chose sur lequel je voudrais finir, que vous savez. Je le laisse partir à Ustaritz, là, avec... je laisse Élisabeth et Perpétue partir à Ustaritz, vous savez, le début du mois de mai où il va mourir. Le bon père, il est malade, et... Élisabeth et Perpétue Élisabeth part à Ustaritz avec le père Toury pour rencontrer les sœurs de là-bas. Ça va être les premiers vœux perpétuels à Ustaritz. Parce que c'est l'année où arrivent au bout de 5 ans les premières postulantes entrées à Igon. Vous savez qu'il y a eu le transfert. Donc ce sont les premiers vœux perpétuels à Ustaritz. Ils avaient été très ennuyés. Faut-il rester? Le mon père est malade. Faut-il partir? Vous savez qu'elle part. Le père Toury ne reviendra pas, mais elle reviendra. Mais entre-temps, entre son départ et son retour, parce que le mon père est très malade, le bon père a le temps de leur écrire à Élisabeth et Perpétue cette lettre dont je vous lis quelques lignes seulement. Mes révérendes sœurs Élisabeth et Perpétue, vous allez donc procéder à cette cérémonie si désirée, si glorieuse pour Dieu, si édifiante pour le prochain. Que vont faire les prophètes? Ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, mon Dieu, vous n'avez pas voulu des sacrifices que les hommes vous offraient, vous m'avez donné un corps. Voilà ce qui s'appelle faire un acte d'adoration et d'amour. Ah, mes sœurs, dilatez votre cœur en vous rappelant que Dieu a daigné se servir de vous et de vos bons offices pour faire de ses filles des épouses chéries. Faire connaître, adorer, aimer, imiter Jésus-Christ. Le papier, les expressions me manquent pour rendre les sentiments qu'inspire une si grande miséricorde de Dieu pour ses créatures. Vous vous rendez compte que 15 jours après, ça sera sa mort. Vous vous rendez compte la force, la foi qu'il y a là-dedans. Et il est très mal. Il est très mal. Vous savez, on lui demande « De quoi avez-vous besoin, mon père ?» Qu'est-ce qu'il répond ? de la grâce de Dieu.
Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de sœur Madeleine Guillebeau, Saint-André Hubert Fournet, fondateur des Filles de la Croix. Un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002.